67,68$ à Londres. Le Brent est en hausse de 1,96% à 65,46$. Du coup, le CAC 40 se retrouve en repli d'un 0,2%. Il est à 4485 points dans un gros marché. Déjà 2,8 milliards d'euros ont été négociés. Un mouvement baissier est accentué par la hausse de l'euro face au billet vert. Aux dernières transactions interbancaires, la pièce bicolore reprend 0,67% à 1,2236$. Enfin, sur les marchés de l'or au premier fixing à Londres, l'once regagne 2,20$ à 467$. Et au cours indicatif de la CPR, or le lingot est à 12 020, le Napoléon à 67 10. Voilà, je vous rappelle le CAC 40, forte baisse d'un 0,3% à 4485 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
Et puis l'arrivée de la première course à la Capelle, combinaison gagnante du Quintet Plus, 9, 17, 7, As et 6. 14h03 sur France Inter, Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
Merci Jacqueline et bonjour à tous. Aujourd'hui, la conquête du pouvoir par le premier empereur romain, Auguste. Auguste avait dans son regard comme une autorité divine. Et quand il le fixait sur quelqu'un, il aimait le voir baisser la tête, comme ébloui par le soleil. Suétone. Ans d'histoire. On dit qu'à la naissance d'Octave, un astrologue s'était prosterné devant lui en lui promettant qu'un jour il gouvernerait le monde. Quelques années plus tard, en effet, Octave, devenu Auguste, était le premier empereur d'un État qui allait durer 5 siècles en étendant ses frontières jusqu'aux limites du monde connu. L'ascension extraordinaire de cet homme, qui servit plus tard de modèle à Charlemagne, à Louis XIV ou à Napoléon, commençait à un des moments les plus sombres de l'histoire romaine, au début d'une guerre civile, provoquée par la mort du père adoptif d'Auguste, assassiné en plein Sénat le jour des Ides de mars, en 44 avant Jésus-Christ.
César ! Qui est-ce qui dans cette foule a lancé mon nom ? J'entends une voix plus aiguë que les musiques crier César ! Parle !
Regarde aussi de te passe.
Casca, c'est toi qui frapperas le premier, tu le sais.
Parle pour moi, mon bras.
Toi aussi, Brutus. Alors ton César.
Liberté ! Nous sommes libres ! Liberté ! Indépendance ! Affranchissement !
Pierre Combe, bonjour. Alors, bonjour. C'était l'assassinat de Jules César, la fin d'un destin extraordinaire et le début d'un autre, celui de son fils adoptif, Auguste, dont vous venez d'écrire la biographie chez Perrin. Auguste qui était le premier empereur romain. On oublie parfois que, avant d'être un empire, Rome était une république jusqu'à l'avènement d'Auguste. L'avènement d'Auguste, la conquête du pouvoir par Auguste, c'est vraiment un tournant dans l'histoire romaine et dans l'histoire de l'Antiquité en général.
Oui, Rome avait conquis déjà un empire important sous un régime républicain, mais l'avènement d'Auguste marque le début d'un pouvoir véritablement personnel, même si Auguste a pris le soin de se présenter comme un restaurateur de la République traditionnelle, dans la mesure où il savait que les Romains étaient attachés à ce régime. Mais dans les faits, c'est un pouvoir personnel.
C'est parce qu'ils étaient attachés à ce régime, d'ailleurs, que un certain nombre d'entre eux ont assassiné César, qu'on soupçonnait de vouloir rétablir la monarchie.
Oui, tout à fait, parce que César, peut-être moins habilement justement que plus tard Auguste, n'avait pas hésité à accumuler sur sa personne toute une série d'honneurs, de prérogatives extraordinaires qui ont fini par choquer effectivement certains aristocrates romains qui ont eu peur de voir avec ce régime mis en place par César lui à la perte de leurs privilèges traditionnels.
Alors César meurt donc, c'est le début d'une guerre civile pendant laquelle Auguste va conquérir progressivement, lentement, ça a duré plus de 10 ans, le pouvoir. Auguste qui était cette guerre civile entre tous ceux qui pouvaient prétendre succéder à César. D'abord, il y avait les républicains eux-mêmes qui l'avaient assassiné parce qu'ils craignaient le rétablissement de la monarchie. Et puis, il y avait des hommes qui ont tenté de succéder à César. Ce sera Lépide, on en parlera, Antoine, plus important. Auguste, qui semble être le mieux placé, parce qu'il faut le rappeler, c'est le fils adoptif de César.
Oui, il est en fait le petit-neveu de César, c'est-à-dire que c'est le petit-fils de d'une sœur de César, Julie, mais effectivement, quelques mois avant d'être assassiné, César, qui n'a pas de fils légitime, pardon, qui a juste une fille qui a été mariée à Pompée mais qui est morte, eh bien César adopte son petit-neveu dans son testament et il en fait donc son fils.
Ce fils qui ne s'appelle pas encore Auguste, il s'appelle Octave.
Oui, il s'appelle en fait Caius Octavius, c'est le nom de son père, hein. Qui donc avait épousé une nièce de César.
Et son père qui était mort, je crois, donc il avait 4 ans, on l'a dit. Mais en fait, il le prend sous sa protection, César. César va se charger de son éducation, en tout cas la famille de César.
Oui, parce qu'en fait, effectivement, Octave a perdu son père très jeune. Alors, on ne sait pas trop exactement toujours où il passe son enfance. On sait qu'il est donc né sur le Palatin, donc au cœur de Rome. Sa famille paternelle est originaire de Vélitre, dans les environs de Rome, dans le Latium, et sa mère s'étant assez vite ensuite remariée, il a passé un certain temps chez sa grand-mère Julie, donc chez la sœur de César, et on a de bonnes raisons, oui, de penser que César a veillé ensuite à l'éducation de ce petit-neveu, même si parfois c'était un peu de loin, puisque César a conquis les Gaules pendant ce temps-là.
Alors, Pierre Combes, quand vous dites, d'abord, donc, il fait de lui son fils adoptif, puis plus tard son héritier, puisqu'il n'a pas d'enfant, César, ça veut dire que Auguste, enfin Octave, hein, il s'appelle encore comme ça, va hériter à la fois d'une immense fortune, et considérable, celle de César, mais aussi de son pouvoir.
Alors, non, pour le pouvoir, ça ne se fait pas directement. La fortune, oui. Il hérite aussi en partie d'un réseau de clientèle, comme les nobles romains en avaient à cette époque. Et dans le cas de César, c'était un réseau très puissant. Ça s'étendait même à ses anciens soldats, ses vétérans. Mais il doit faire face à d'autres prétendants, si l'on peut dire. Hein. C'est-à-dire Marc-Antoine, qui, au moment des Îles de Mars, est consul, hein, le collègue de César au consulat. Et également, donc, Lépide, hein, qui était le maître de cavalerie de César. Son adjoint, puisque César était à la fois consul et dictateur à ce moment-là. Octave est encore très jeune,
hein, il a 19 ans,
et il n'est même pas à Rome au moment des Îles de Mars, puisque à ce moment-là, César projetait une expédition contre les Parthes, et il avait envoyé le jeune Octave avec une partie de son armée, déjà dans les Balkans, à Apollonie, hein, en Épire.
Donc, Épire, c'était l'actuelle Albanie.
Voilà, et Octave n'est donc même pas à Rome au moment où César est assassiné.
Alors, il s'y précipite, bien sûr, pour revendiquer l'héritage, ce qui va évidemment fâcher tous les prétendants, si je puis dire, au trône. Moi, je dis le trône, mais c'est la République.
Au pouvoir, oui.
Au pouvoir. Et alors, parmi eux, donc, il y a Lépide, vous l'avez cité, il y a Antoine. Alors, c'est le début entre ces trois hommes, sans compter les républicains qui ont fait assassiner César. C'est le début d'une véritable guerre civile, donc, entre ces trois hommes, surtout Lépide, Antoine et Octave, qui vont tantôt se battre pour la conquête du pouvoir, tantôt s'allier pour le partager. Et c'est le cas, et ça commence comme ça, en 43, ils forment tous les trois, Lépide, Antoine et Octave, un triumvirat, c'est quoi?
Alors, ce qu'on appelle en fait un peu hâtivement le second triumvirat, c'est en fait une association officielle de ces trois personnages qui prennent le titre en vertu d'une loi de triumvir pour restaurer la République. On parle de second triumvirat en référence à un premier triumvirat qui était en fait un accord secret, hein, et non pas des magistratures officielles, accord secret qu'avait conclu dans les années 60 avant Jésus-Christ, César, Pompée et Crassus. Hein. Mais ce premier triumvirat n'avait rien d'officiel, tandis que le second triumvirat représente vraiment l'association de trois magistrats pourvus de pouvoirs officiels, dont ils profitent d'ailleurs très vite pour éliminer leurs opposants dans ce qu'on appelle les proscriptions.
Alors ça, c'était terrible, hein, ce qu'on appelle la proscription, c'est quelque chose d'épouvantable, ça a même provoqué une véritable terreur. Il s'agissait, vous le rappelez Pierre Combes, de proscrire les assassins de César et tous leurs complices, en tout cas tous ceux qu'on soupçonnait être leurs complices, ce qu'on appelait les césaricides.
Oui, c'est ça, sous prétexte, disons, de venger César Bonnard et de châtier ces assassins, en fait, on étendait, disons, ces proscriptions à de très nombreux personnages, l'on pouvait soupçonner effectivement d'opinion républicaine et d'avoir été hostile à César. Alors, ce n'est pas la première fois que de telles proscriptions avaient lieu à Rome. Sylla, dans les années 80 avant Jésus-Christ, avait déjà pris de telles mesures, mais ces proscriptions, effectivement, ont beaucoup frappé les esprits, ont entraîné un certain nombre de condamnations, et ont longtemps contribué aussi à une certaine légende noire du personnage.
Oui, mais concrètement, matériellement, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que les terres étaient confisquées?
Ça veut dire qu'on
affichait la mort? Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on affichait les noms des condamnés à mort, que toute personne avait le devoir de dénoncer et d'exécuter, avec même des récompenses prévues, par exemple, pour les esclaves des proscrits qui livreraient ou tueraient leur maître.
Oui, on comprend que ça provoque la terreur. Il y a une victime célèbre de cette proscription, ce sera Cicéron.
Oui, Cicéron qui est victime des ultimes manœuvres politiques qu'il a tentées justement après l'éside de Mars. Il a tenté, parce que Antoine lui paraissait, disons, l'héritier de César le plus dangereux, de s'appuyer sur le jeune Octave contre Marc-Antoine, moyennant quoi, quand Marc-Antoine et Octave se réconcilient et forment ce triumvirat avec Lépide, eh bien Cicéron effectivement fait les frais de cette réconciliation, puisque Marc-Antoine exige effectivement la tête de Cicéron.
Alors, ceux qui vont faire les frais de la réconciliation aussi, de ce triumvirat, évidemment, ce sont les républicains. Octave veut venger son père, César. D'ailleurs, à un moment donné, même, il fait diviniser César, si bien que lui, l'héritier, Octave, devient un fils de Dieu.
Oui, ça se passe dès le peu de temps après le retour, justement, d'Octave à Rome. Il y a des jeux funèbres qui sont donnés à la mémoire de César, comme cela se faisait dans l'aristocratie romaine. Mais à ce moment-là, dans le mois de juillet, 44 avant Jésus-Christ, une comète passe dans le ciel de Rome et on prétend que c'est César qui a rejoint les dieux. Et de ce fait, Octave peut se présenter comme le fils d'un dieu.
Ce qui donne un gros avantage vis-à-vis de ses concurrents, Pierre Combes, avec lesquels, donc, avec le triumvirat, avec lesquels, donc, il part en guerre contre les assassins de son père, c'est-à-dire Brutus et Cassius. Il y a une très grande bataille. Vous dites même, à un moment donné, parce qu'ils sont partis,
ils sont en Orient,
et alors, le triumvirat, en réalité, Octave et Antoine va les poursuivre avec une armée. Vous dites même que cet affrontement, qui est un affrontement entre Romains, il faut le rappeler, c'est quand même assez extraordinaire, eh bien, a mobilisé plus de soldats que Rome n'en avait jamais mobilisé jusque-là pour se battre, pour que Octave et Antoine écrasent les assassins de Jules César.
Oui, oui, ça représentait un affrontement effectivement très important, sans doute, aux environs d'une vingtaine de légions dans chaque camp. Une légion, c'est entre 5000 et 6000 hommes. Des engagements d'ailleurs très confus, puisque, d'après ce que les auteurs anciens nous disent, effectivement, du déroulement de cette bataille, les commandants en chef eux-mêmes ont parfois eu du mal à suivre le déroulement même des opérations, et c'est une confusion de ce genre qui fait que, justement, à un moment, Cassius croit que la bataille est perdue, alors que les républicains avaient plutôt l'avantage.
C'est la bataille de Philippe, au cours de laquelle Brutus va se suicider, je crois. Mmh. Comment s'appelle-t-il ? Octave, justement, va faire porter la tête de Brutus à Rome, au pied de la statue élevée en l'honneur de son père, en l'honneur de César. On dit, c'est la légende, Octave était à la fois très cruel, il le prouve de cette manière, lâche aussi, il n'a pas participé à la bataille de Philippe, cette bataille justement au cours de laquelle Brutus a été battu.
Oui, il a eu effectivement la réputation de très souvent tomber malade effectivement au moment des batailles.
Oui.
Et effectivement, en fait, la bataille de Philippe est une victoire essentiellement de Marc-Antoine, qui a joué un rôle décisif dans la victoire. Octave était, semble-t-il, encore souffrant, d'après ce que nous disent les auteurs anciens à ce moment-là. On sait qu'il a même fallu un moment que son médecin l'éloigne, puisque sa tante aurait reçu effectivement des traits des assaillants.
À l'issue donc de cette bataille de Philippe, à l'issue de laquelle les deux vainqueurs, donc Octave et Antoine, décident de maintenir le triumvirat et de se partager le monde romain en l'absence de Lépide, qui n'a pas participé à la bataille.
Les combats sont finis et nous avons gagné. Je crois préférable de continuer le triumvirat. Toi et moi et Lépide.
Ça, c'est parfait.
Lépide aura l'Afrique et toutes les îles, toi l'Espagne et la Gaule. Rome et l'Italie demeurent sous notre administration commune à nous trois.
Et toi, tout le reste.
Alors, avec Lépide en Afrique et toi en Orient, ramener l'ordre à Rome et dans toute l'Italie m'incombera.
À ce qu'il semble.
Conclu.
Conclu.
Et c'était un dialogue tiré du film Cléopâtre entre Antoine et Octave, qui, avec Lépide, en l'absence de Lépide, se partagent non plus le pouvoir, mais le monde à ce moment-là. Hein. L'Orient, tout l'Orient, c'était énorme, l'Orient romain à l'époque, à Antoine, c'est ça?
Oui, en fait, l'Orient échappait jusqu'à la bataille de Philippe au contrôle des triumvirs, puisque c'est l'endroit où s'étaient repliés les assassins de César. Après l'élimination de Brutus et Cassius, effectivement, l'Orient qui a beaucoup souffert des guerres civiles, qui a souffert aussi des exactions effectivement de Brutus et Cassius qui ont essayé de trouver des fonds et des hommes pour cet affrontement, eh bien l'Orient est un peu à reconstruire et c'est la mission qui revient à Marc-Antoine. L'Orient, ça correspond à la fois à ce moment-là à des provinces romaines, mais également à des états clients, à des sortes de protectorats romains. Qui donc passe sous le contrôle de Marc-Antoine.
Alors à Lépide, l'Afrique du Nord, l'Afrique romaine, et puis alors quand même pour Octave, c'est pas rien, on l'a entendu, l'Espagne, la Gaule, et il est à Rome, il est assuré de protéger, il est là pour protéger Rome, il est au cœur au fond du monde romain. C'est curieux que Antoine lui laissait le contrôle de la capitale.
Oui, mais c'est en même temps une tâche un peu ingrate parce que Octave a également la mission de distribuer des terres aux vétérans, justement, des très nombreuses légions qui ont combattu à Philippe. Certains soldats attendent leur récompense, donc au moment de leur démobilisation. Le problème, c'est qu'effectivement, on commence à manquer un peu de terres disponibles pour tous ces soldats. Et pour Octave, la tâche est très délicate, puisqu'il doit concilier à la fois les aspirations de ces vétérans et en même temps les craintes de tous les propriétaires fonciers italiens qui, évidemment, ne veulent pas se voir dépossédés au profit de ces soldats. Et donc ça entraîne d'ailleurs des conflits à ce moment-là.
Et puis alors, Pierre Combe, Octave se trouve aussi devant un autre danger, un nouveau danger, un quatrième larron, si je puis dire, en plus de Lépide, Octave et Antoine. Il y a un homme, le fils du grand adversaire de César, le fils de Pompée, qui lui est gouverneur de la Corse, de la Sardaigne et de la Sicile, à partir desquels il menace de couper les vivres à Rome.
Oui, Sextus Pompée était le dernier fils survivant de Pompée. Effectivement, il avait survécu à la défaite des Pompéiens en Espagne, peu de temps avant la mort de César. Et avec sa flotte, il avait pris effectivement le contrôle des îles de la mer Tyrrhénienne, la Corse, la Sardaigne, également la Sicile. Et de cette façon, il pouvait bloquer le ravitaillement de Rome. À ce moment-là, Rome, c'est sans doute déjà environ un million d'habitants qui dépendent pour leur approvisionnement de blé qui arrive par mer de Sicile justement ou d'Égypte, et en bloquant effectivement l'approvisionnement de Rome, Sextus Pompée essaie de faire pression pour participer lui aussi
au triumvirat qui deviendrait un quadriumvirat.
Voilà.
Alors Octave parvient surtout grâce à son lieutenant Agrippa parvient à battre Sextus Pompée. Il met à l'écart aussi Lépide parce que Lépide avait une attitude un peu ambiguë à l'époque, et les deux hommes, c'est-à-dire Octave et Antoine, se retrouvent pratiquement seuls, maître de tout l'empire romain, lui, Octave, à Rome, et Antoine en Égypte. Qu'est-ce qu'il fait en Égypte avec Cléopâtre ?
Bien, l'Égypte est à ce moment-là encore un royaume indépendant qui a évidemment des liens avec Rome, qui à certains moments a même été une sorte de protectorat romain, mais c'est un royaume qui a des ressources importantes, et effectivement, Marc-Antoine, outre...
C'est le grenier à blé de Rome. C'est de là que Rome fait venir son blé, notamment en grande partie.
Exactement, oui, et en plus donc de la attachement que Marc-Antoine a pu éprouver pour la reine Cléopâtre, l'Égypte lui sert également de base arrière pour les campagnes campagne qu'il projette de mener contre les Parthes, hein, puisque au moment où il avait été assassiné, César projetait de faire cette campagne justement contre les Parthes, hein, qui occupent à ce moment-là à peu près la Mésopotamie, à peu près l'Irak actuel.
L'Irak, oui.
Et donc pour cette campagne que Marc-Antoine maintenant entend mener, eh bien il a besoin des ressources de l'Égypte, d'où effectivement cette alliance, hein, qui est à la fois une alliance matrimoniale et politique avec Cléopâtre VII, hein, la reine d'Égypte à ce moment-là.
Mais il se prend au jeu, il est fasciné par l'Égypte.
Oui, il y a, mais comme de Marc-Antoine. Très nombreux nobles romains, Marc-Antoine est, disons, nourri également de culture grecque. Il est également fasciné par, évidemment, le modèle d'Alexandre le Grand, par le grand conquérant de l'Orient. Et le royaume Lagide en Égypte représente en quelque sorte le dernier avatar de cet empire d'Alexandre. On comprend effectivement que Marc-Antoine ait ses liens avec l'Égypte.
Au point d'ailleurs d'envisager, dit-on, de transférer la capitale des Romains à Alexandrie et même de s'y faire inhumer, un projet qui va servir à Octave de prétexte pour rompre son alliance avec Antoine et mobiliser les Romains et leur Sénat contre celui qui reste le seul obstacle à ses ambitions.
J'ai ici les dernières volontés et le testament de Marc-Antoine, qui aime tellement Rome. Lisez donc, lisez vous-même quel amour ce cher, ce grand Antoine vous porte. Il l'explique sans embâche dans ceci. Ses dernières volontés scellées de son sceau. Quand il sera mort, écrit-il, quand Marc-Antoine sera mort, c'est sa volonté la plus formelle d'être inhumé dans sa chair Alexandrie. En Égypte, parmi les Égyptiens, près de la cata égyptienne qu'il adore. La guerre. Regardez, tout, je brandis le javelot de la guerre, le javelot d'or, placé dans ma main à l'unanimité par le commandement et la volonté du Sénat de Rome. Où est notre ennemi? Où est l'Égypte? Montre-moi la voie.
Et c'était une scène tirée du film de Mankiewicz, le Cléopâtre, magnifique Cléopâtre avec Liz Taylor et Richard Burton, entre autres, et Octave, justement, qui brandit devant le Sénat ce fameux testament. En quoi est-ce que ça pouvait scandaliser les Romains que Antoine veuille se faire, au cas où il mourrait ailleurs, veuille se faire enterrer en Égypte?
Bien là, disons que Octavien a exagéré
la menace.
A exagéré la menace que pouvait représenter l'alliance de Marc-Antoine et de Cléopâtre afin de trouver un prétexte et engager effectivement les hostilités contre le dernier obstacle qui restait devant lui pour accéder à un pouvoir unique. Marc-Antoine n'a pas a suivi un peu les traces des autres généraux romains en Orient, c'est-à-dire que la domination de Rome en Orient reposait à la fois sur des provinces directement administrées par Rome et sur des royaumes protégés, des protectorats. Il a suivi dans ce cas-là les traces même de Pompée. Simplement, effectivement, Octave a su profiter justement de ce testament pour présenter l'Égypte comme une menace afin de déclarer la guerre à Cléopâtre. Ça lui permettait de présenter cet ultime affrontement non pas comme une nouvelle guerre civile mais comme une guerre contre un royaume étranger, en l'occurrence le royaume d'Égypte,
et contre Antoine, présenté comme un traître, qui renonce, qui abandonne un Romain qui veut devenir égyptien. Il dit
oui.
Le transfert de la capitale, on en a parlé. Il faut dire qu'il a une excellente propagande quand même, Octave, il s'appelle pas encore Auguste, hein, mais Octave, il a quand même derrière lui des écrivains déjà, qu'il connaît bien, Virgile, sont des gens qui vont travailler pour lui.
Oui, bien sûr, c'est-à-dire
c'était
que...
C'était le roi de la com, hein,
on peut dire ça,
à l'époque de l'Antiquité.
Il a su effectivement se présenter comme le dépositaire d'une mission, la mission que Virgile reconnaissait aux Romains, c'est-à-dire de dominer le monde. Il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où il est devenu le fils de César, il était en même temps le descendant de Romulus, hein, donc du fondateur de Rome, puisque César lui-même se rattachait à cette lignée.
Donc, Il déclenche la guerre, il mobilise le Sénat contre Antoine. Ce sera la célèbre, la plus grande bataille de l'Antiquité, qui est une bataille navale, la bataille d'Actium, hein, au large, là encore, de l'Albanie. L'échec, la défaite d'Antoine et de Cléopâtre, qui s'enfuit. Auguste les poursuit jusqu'à Alexandrie. Il espérait, je crois, les prendre vivants, pour au moins Cléopâtre, pour pouvoir la montrer en triomphe à son retour à Rome, c'est ça?
Oui, l'objectif, c'était effectivement pour Octave, eh bien, de célébrer son triomphe, et de la même façon que César avait montré Vercingétorix enchaîné lors de son triomphe, eh bien, Octave pensait effectivement présenter Cléopâtre lors de son propre triomphe. Pour Marc-Antoine, ça aurait été plus délicat, même s'il a fait mine de s'apitoyer sur le sort de Marc-Antoine en arrivant à Alexandrie, après le suicide de Marc-Antoine. Le suicide de Marc-Antoine arrangeait plutôt les affaires d'Octave. Mais il comptait surtout aussi mettre la main sur les richesses de l'Égypte, et c'est ce qu'il a pu faire.
Et surtout, il n'y a plus de Marc-Antoine, il s'est suicidé, il n'y a plus d'obstacle maintenant à un pouvoir absolu, total. Deux ans plus tard, je crois, il va se faire nommer princeps. Hein. Alors on dit pas empereur, parce qu'il prétend préserver la République. Il sait que déjà César avait été assassiné parce qu'il avait voulu renverser la République. Alors il fait un peu attention. Ça s'appelle le principat. En réalité, c'est l'empire. En réalité, c'est le premier empereur, Auguste, qui prend d'ailleurs le nom d'Auguste à ce moment-là.
Oui, alors il semble avoir hésité entre plusieurs, disons, surnoms possibles. On lui aurait proposé Romulus, mais Romulus, ça lui paraissait un surnom un peu trop royal. En plus, Romulus avait assez mal fini, et donc il préfère effectivement se faire décerner ce surnom, ce surnom d'Auguste, qui attache à chacune de ses actions un certain charisme. Et effectivement, c'est en janvier 27 avant Jésus-Christ qu'il reçoit à la fois ce surnom et puis un pouvoir de commandement civil et militaire, l'Imperium, qui lui permet de contrôler la plupart des provinces, en tout cas la plupart des provinces où se trouvent des armées.
Et de créer un empire qui va quand même durer 5 siècles, hein, jusqu'à la chute de Romulus Augustule à la fin du 5e siècle. Ça a duré très longtemps. Il faut dire que lui-même est resté très longtemps au pouvoir, presque aussi longtemps que Louis XIV, puisqu'il est mort assez tard. Mais alors, on dit aussi, vous le dites, Pierre Combes, qu'il a inspiré, au fond, plus tard, beaucoup plus tard, des gens comme Louis XIV, comme Charlemagne, comme Napoléon.
Alors, ce personnage, oui, a inspiré d'autres fondateurs d'empire. Simplement, ces fondateurs d'empire, je pense notamment à Napoléon, ont parfois été gênés par le fait que Auguste n'avait pas la réputation d'être un grand conquérant, d'être un grand guerrier, même si sous son principat, l'Empire romain s'est encore étendu. Et donc, il y a toujours eu une certaine hésitation entre ce modèle d'Auguste et puis d'autres modèles. Pour Charlemagne, en tout cas, il y a également le modèle des rois bibliques, hein, puisque Charlemagne, en même temps, a été sacré. Mais il reste effectivement une référence pour les empereurs qui lui ont succédé.
Merci Pierre Combes. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, donc Auguste, qui vient d'être publié chez Perrin. À lire également un dictionnaire de l'Antiquité sous la direction de Jean Leclan, qui vient de paraître aux Presses universitaires de France. Vous avez pu entendre des extraits de Jules César avec Marlon Brando et Cléopâtre, deux films réalisés par John Mankiewicz et disponibles en DVD chez 20th Century Fox. Ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Olivier Riotor, Michel Desipian, documentation Claire Tesser et Camille Poux-Jalaguier, et Mathieu Menossi, et notre impératrice.